Vous proposez d'ouvrir la Bible dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, et nous allons lire à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. J'aimerais ajouter une seconde et très courte lecture. Si vous le voulez, vous pouvez trouver cela dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 et le verset 18. C'est tellement court que peut-être vous pouvez simplement écouter. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ces moments précieux que nous venons de vivre ensemble. Et merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir élever nos voix pour te glorifier. Nous reconnaissons que tu es un Dieu admirable. Et nous sommes, Seigneur, tellement heureux d'appartenir à un Dieu tel que toi. Seigneur, nous venons de lire ta parole et je te prie de tout mon cœur, aide-nous par ton esprit, afin de pouvoir tirer profit de ce que nous venons de lire. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Renouvelle en nous, Seigneur, un esprit bien disposé, afin que par notre vie, par notre comportement, nous puissions te glorifier et t'honorer comme tu es digne de l'être. Viens-nous en aide donc pendant ces moments de méditation. Et à toi seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ce merveilleux passage que nous venons de lire dans le livre du prophète Ézéchiel mérite vraiment que nous puissions, avec beaucoup de soin, et je dirais avec un cœur bien disposé, le méditer, car il y a ici des promesses que Dieu fait et nous savons très bien les uns et les autres que lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu annonce quelque chose, lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit toujours. À nous, bien sûr, de placer la foi et la confiance dans ce Dieu tout-puissant qui est capable même de faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou dire. Alors, j'ai, pour commencer cette méditation, une question très simple à laquelle je ne vous demande pas de répondre à haute voix, mais de la considérer dans le fond de votre cœur. La question, la voici. Vous avez remarqué, il est ici, dans ce texte, mentionné l'action de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, comme je pense nous le croyons tous, nous avons beaucoup d'intérêt pour ce que nous appelons la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. La plupart d'entre nous, sinon tous, du moins je l'espère, nous avons pu faire une expérience dans ce domaine. La plupart d'entre nous, nous avons connu ce que c'est que d'être baptisé dans le Saint-Esprit et je vais appeler cela la bénédiction de la Pentecôte. Ma question, la voici. Est-ce possible qu'après avoir reçu la plénitude de la bénédiction de la Pentecôte, on puisse la perdre? Je sais qu'il y a un texte dans l'Écriture qui se trouve dans l'Épître de Paul aux Romains qui affirme que Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais toutefois, nous avons à considérer la chose suivante. Dieu ne nous confère pas une bénédiction, quelle qu'elle soit, de telle sorte que nous soyons contraints de la garder bon gré, mal gré. La foi est indispensable pour que chaque jour, nous puissions progresser dans la voie de l'Esprit. Je prends, par exemple, le témoignage de notre cher Sauveur. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui est notre exemple. Et la Bible me dit qu'après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, le jour de son baptême, alors que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, Jésus a dû continuer à marcher tous les jours dans l'obéissance aux injonctions de son Père et de l'action du Saint-Esprit. Et sa vie est allée en augmentant dans la lumière, dans la perfection, dans une marche glorieuse. Il est vraiment un modèle en tout point. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons garder nos yeux fixés sur lui. Parce que c'est dans la mesure où nous le contemplons que la Bible déclare « Nous sommes transformés de gloire en gloire en son image comme par le Seigneur l'Esprit. » Ainsi donc, eh bien, je voudrais vous dire comment est-ce que nous pouvons conserver en nous et je dirais même augmenter en nous cette action de l'Esprit de Dieu qui un jour a commencé dans notre vie, mais qui doit être comme la lumière du jour, qui va toujours en augmentant jusqu'au zénith, en plein midi, où elle brille de tout son éclat. Eh bien, la parole de Dieu me dit que c'est par la foi que nous avons reçu la bénédiction de la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est donc aussi par la foi que nous pouvons la conserver. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu, dans sa grâce ineffable, eh bien, peut nous conduire dans cette voie-là où nous connaissons un bonheur ineffable. Et finalement, ce que Dieu désire pour chacun de ses enfants, c'est que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, malgré les situations difficiles que nous sommes appelés à traverser jour après jour, nous puissions toujours avoir un cœur qui est rempli de son Esprit. D'ailleurs, le verset que nous avons lu et qui se trouve dans l'Épître de Paul aux Éphésiens dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, nous laisserons ça de côté, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Et je ne suis pas le seul à dire, mais c'est une vérité, on pourrait dire « Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. » Je ne crois pas à une expérience qu'on relègue à un passé plus ou moins lointain. Certains peuvent dire, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. D'autres pourraient dire, il y a quelques mois, j'ose espérer peut-être, quelques-uns pourraient dire, il y a quelques semaines. Mais en réalité, c'est tous les jours que nous devons être renouvelés dans cette plénitude du Saint-Esprit. Je vais vous dire, le don de l'Esprit de Dieu en nous, c'est comme un talent que nous devons faire valoir. Et ce n'est qu'à cette condition-là que nous pouvons voir la gloire du Seigneur dans notre vie et dans notre cœur. Donc, c'est un peu comme le peuple de Dieu autrefois, quand il était dans le désert et qu'il attendait tous les jours que Dieu fasse descendre cette manne extraordinaire. Et c'était la manne fraîche tous les jours qu'il fallait ramasser. Frères et sœurs, je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez cela par expérience personnelle et que chaque jour, il y a un intérêt en vous de puiser dans l'Écriture, de puiser dans la parole de Dieu, de rechercher le Seigneur dans un culte personnel. Mais je sais aussi que beaucoup de chrétiens se lassent de cette recherche du Seigneur quotidienne. Permettez-moi d'ouvrir mon cœur et de vous dire, mes frères et sœurs, si dans les temps dans lesquels nous sommes, nous nous contentons de vivre de ce que nous recevons le dimanche ou les jours de réunion en semaine ici, je ne pense pas qu'on puisse aller très loin. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions chaque jour, chacun d'entre nous, à titre personnel, avoir un culte en esprit et en vérité où l'on recherche le Seigneur et où on se relève de ce moment-là plein de force, avec cette joie que seul l'Esprit de Dieu est capable de donner, non pas une joie superficielle, artificielle, mais une joie profonde qui se trouve là, au fond même de notre cœur. Car lorsque l'Esprit de Dieu descend sur nous et applique la parole de Dieu à notre cœur, alors nous ne pouvons pas faire autrement que d'être dans une joie immense. Et nous sommes transformés à ce moment-là en adorateurs, en esprit et en vérité. Alors, voyons un peu au travers de l'Écriture, comment nous pouvons alimenter cela? Comment nous pouvons continuer chaque jour, à permettre à Dieu de nous remplir de son esprit? Je dirais que la première chose, c'est de prendre conscience que le Seigneur peut toujours plus augmenter en nous cette action de l'Esprit de Dieu. Permettez-moi de m'expliquer en citant deux versets de l'Écriture. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 35, voici ce que Jésus déclare. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Vous remarquez au travers de ce verset, il y a l'apaisement de la soif en nous, il y a la notion d'une plénitude, il y a la notion d'une entière satisfaction. Plus jamais faim, plus jamais soif. Mais juste à peine quelques versets plus loin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 38, voici comment Jésus s'exprime. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. » Voyez, la plénitude, c'est de croire au Seigneur. Nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu. Mais il dit, quand on continue à croire, à s'appuyer sur le Seigneur, alors des fleuves d'eau vive vont jaillir. Ça, c'est le débordement. Et il est écrit, comme dit l'Écriture, et c'est en effet dans le livre du prophète Ésaïe en particulier qu'il est cité ce texte que nous connaissons tous, je pense, et qui affirme « Vous puiserez avec joie de l'eau à la source, et c'est là à la source du salut ». Et c'est un privilège que nous avons les uns et les autres. Mais le même prophète Ézéchiel, au chapitre 47, nous parle de ce fleuve eschatologique qui coule et qui, partout où il passe, apporte la vie. Eh bien, ça doit être quoi, l'Église ? Eh bien, ça doit être ce vase, non seulement rempli, mais qui déborde, de telle sorte que tout autour de l'Église, tous ceux qui ne connaissent pas encore la grâce de Dieu, puissent parvenir à louer le Seigneur en voyant ce qu'il a fait dans nos vies et dans nos cœurs. Car plus que nos paroles, c'est notre vie qui parle. Et quand notre vie parle, alors à ce moment-là, des hommes et des femmes peuvent être touchés et attirés par le Seigneur lui-même. Et le premier point, dans le fond, sur lequel je veux insister, c'est qu'il faut, comme une nouvelle révélation de la présence du péché, écoutez bien ici, et de son caractère haïssable. Vous allez dire, mais frère Ferris, nous connaissons le Seigneur. Et nous avons chanté ensemble, et c'était tellement beau ce cantique. La valeur du sang précieux qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Et nous connaissons tous ce verset de l'Écriture qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et c'est une vérité. Oui, Jésus nous a pardonné de nos péchés. Mais, mes frères et sœurs, au fur et à mesure que nous avançons, après avoir pris ce départ au travers d'une repentance à l'égard de Dieu, et puis de la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, au travers de notre marche, nous réalisons quelque chose. Et ce que je vais dire là, nous en avons déjà parlé tellement de fois. Et Paul lui-même nous fait part du combat qui se trouve en lui-même. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et il ajoute ceci, je sais à l'intérieur de moi-même ce qu'est la volonté de Dieu, et je n'ai qu'un seul désir, c'est de l'accomplir. Mais il y a une autre loi dans ma chair, qui me fousse à faire exactement le contraire de ce que Dieu veut. Et il dit, qui va me délivrer? Voyez, mes frères et sœurs, il y a un moment, c'est le jour de notre conversion, où nous saisissons la main du Sauveur, et je dirais que nous le faisons parce que nous avons davantage peur des conséquences de notre péché dans notre vie. Ce qui va attirer, bien sûr, le jugement et la condamnation. Mais une fois que nous avons saisi la main du Sauveur, alors nous pouvons affirmer, oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais lequel d'entre nous ne sait pas qu'il y a encore des choses qui sont cachées dans les replis de notre cœur? Parce que jusqu'au bout, les deux natures restent là. La nouvelle nature en Christ, pour laquelle nous nous réjouissons et nous pouvons glorifier Dieu. Et cette chair dans laquelle nous sommes et qui nous pousse ou nous tire vers le bas. Et quelquefois même, nous faisons des choses que nous haïssons et nous nous rendons compte qu'il y a une lutte, un combat. Et Dieu veut nous amener à quoi ? À avoir la haine du péché, la haine de cette racine du mal qui se trouve au plus profond de nous-mêmes. Et quand nous avons cette révélation de ce qui est caché dans notre chair, qui se manifeste encore en nous, eh bien, nous crions à Dieu. Et c'est là qu'il y a justement la possibilité, quand nous sommes vrais avec notre Dieu, de le voir agir puissamment, agir en profondeur pour nous amener sur quel terrain? Sur le terrain de la sanctification. Car dois-je le rappeler encore ce matin? La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oui, je sais, je sais. Il y a le verset de l'Écriture qui dit qu'en lui nous sommes justifiés, qu'en lui nous sommes sanctifiés, qu'en lui aussi nous sommes glorifiés. Ça, c'est ce que nous sommes potentiellement. Mais cela doit être une réalité de tous les jours. Notre marche doit être une marche pure, une marche sainte. Le Seigneur connaît notre cœur. Et d'ailleurs, le psaume 33, eh bien, nous parle de ce Dieu qui connaît parfaitement le cœur de l'homme, à qui rien n'est jamais caché. Et vous savez, c'est un défaut que nous avons souvent, de juger certaines dénominations et de juger en condamnant parce que la tradition a pris le dessus sur la parole de Dieu. Vous savez comment Jésus a parlé dans les évangiles? Il s'en est pris aux hommes religieux de son époque et il disait justement, en mettant en relief cela, la tradition a plus d'importance à vos yeux que la parole de Dieu elle-même. Mais vous savez, mes frères et sœurs, dans toutes les dénominations, il y a une tradition. Et ces derniers jours, j'étais particulièrement bouleversé parce que le monde, et notre pays en particulier, eh bien, semblait être bouleversé par la mort d'un certain chef religieux. Vous savez certainement de qui je veux parler. Mais quand je découvre que ce chef religieux, tellement adulé par des foules, eh bien, un journaliste en parlant de lui disait: pour lui, la Vierge Marie, c'était l'alpha et l'oméga. Mais moi, quand je lis la Bible, je découvre que celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Et je suis triste, parce qu'il y a eu certaines personnes, des fois, qui même dans ce milieu-là, que je me garde de condamner, je juge et condamne la tradition humaine à laquelle certains s'abandonnent. Mes frères et sœurs, méfions-nous de ne pas tomber dans cette même voie, de subir une tradition, de suivre des habitudes, une routine, des rites, des cérémonies. Ce que Dieu veut, c'est que notre cœur brûle par l'action de son esprit quand nous avons une relation avec lui. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, pardon, vous m'avez entendu dans le passé tellement de fois le dire, mais encore une fois ce matin, je vais vous dire, j'ai horreur de la religion, mais j'aime être relié à Dieu. Et le seul moyen d'être relié à Dieu, c'est de vivre caché en Christ, sous l'autorité et l'action puissante du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous amènera toujours à sonder notre cœur. Il n'y a rien de caché. Et la raison pour laquelle il nous amène toujours à ses pieds pour nous révéler ce qui se cache dans notre cœur, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pas pour nous condamner, c'est pas pour nous plaquer au sol, mais c'est pour que, en confessant, nous puissions aller de victoire en victoire. Car voyez-vous, mes frères et sœurs, le Seigneur sait tout ce qui peut se cacher. Mais si nous sommes vrais, il peut nous donner la victoire sur notre propre chair. Christ est le grand vainqueur. Et j'ai écouté notre frère qui a cité tout à l'heure ce merveilleux verset qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est la raison pour laquelle nos yeux doivent toujours rester fixés sur lui. Et ça m'amène au second point. Après avoir la révélation du péché qui peut se cacher dans notre cœur, et Dieu nous amène, quand il nous révèle cela, à le confesser au pied de la croix, eh bien, il y a la deuxième étape. Il nous montre vraiment qui est Christ et ce qu'il peut faire en nous et pour nous. Il nous montre comment, bien que la chair demeure toujours en nous, eh bien, il peut triompher de toutes ces inclinations mauvaises. Sa seule présence en nous tiendra en échec le pouvoir du péché et le pouvoir de la chair. Il suffit d'ouvrir son cœur. Chacun d'entre nous, nous avons pu faire un jour cette constatation. Si une maison reste fermée pendant de longues journées, longues semaines, il suffira juste un jour d'ouvrir les portes, la porte et les fenêtres pour que la lumière pénétrante nous permette de voir toute la poussière qui s'est emmagasinée et qui se cache dans les pièces. Ce n'est pas toujours évident de voir la poussière. Et chacun d'entre vous, vous avez fait cette expérience. Juste un petit rayon de soleil qui passe par la fenêtre et nous voyons les millions de particules de poussière qui se trouvent dans l'air. On ne les voyait pas, mais la lumière révèle. Quand on ouvre le cœur, et c'est une chose tellement importante, on ne le fait pas simplement à l'heure de la réunion, on ne le fait pas simplement quand on se retrouve dans la communion fraternelle, on le fait tous les jours, au pied du Seigneur, on ouvre le cœur. On ne veut rien lui cacher. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut cacher à notre Dieu? Qu'est-ce qu'on peut lui cacher? Peut-être quelqu'un ici est en train de réagir et dire « Ah, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Moi, en tous les cas, je ne suis pas aussi pire que ça. Et finalement, par comparaison à tant d'autres, ben, je ne suis pas si mauvais. » Écoutez, mes frères et sœurs, je vais vous dire, même en tant que prédicateur, il m'est arrivé plus d'une fois de pleurer sur moi-même, de pleurer sur mon propre cœur, de pleurer sur tout ce qui peut se cacher là, que nous cachons ou dissimulons aux yeux des autres. Vous savez, ces petites aigreurs, ces amertumes cachées, ces choses que nous gardons ici au fond de nous-mêmes. J'aimerais vous aider à comprendre ce que nous avons lu dans le livre du prophète Ézéchiel. Dieu fait cette promesse, il dit « Je donnerai un cœur nouveau » et il dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau, mais j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit en vous. » Mais au préalable, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous purifierai de toute souillure. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y a compatibilité entre l'action de l'Esprit de Dieu et les choses que nous gardons cachées dans notre cœur et dans notre vie? C'est pas possible. Donc Dieu commence par ôter cela. Qui mettra dans un vase où il y a de la souillure un liquide précieux? Personne. Et notre Dieu a plus forte raison. Décide d'abord de purifier. Et là, j'ai un problème. Parce qu'il y a une dichotomie entre ce que Dieu promet de faire, ce qu'il dit qu'il va réaliser. D'ailleurs, avez-vous remarqué le nombre de fois qu'il dit « Je purifierai, je mettrai, je vous donnerai, je vous conduirai ». C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui va le faire. Mais en même temps, eh bien, dans le Nouveau Testament, tout en sachant que c'est Dieu qui agit, Paul, par exemple, dit à Timothée « Conserve-toi pur ». Conserve-toi pur. Ça veut dire que, oui, il faut le comprendre de cette manière-là. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire par le Saint-Esprit. Il le fait, mais il ne le fait jamais si nous ne le voulons pas. Et c'est la raison pour laquelle il nous appelle, il nous interpelle et il nous dit, viens, viens. Il nous appelle pourquoi ? parce qu'il veut parler au plus profond de notre cœur. Voyez, mes frères et sœurs, je vais bientôt terminer mon message. Mais j'aimerais vous dire, dans l'Église, il y a toujours un problème entre être et paraître. Être, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la réalité. Paraître, c'est ce que nous faisons voir. C'est ce qui est extérieur. Paraître, si vous voulez, c'est l'architecture. C'est la mode, c'est le salon de beauté, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est l'image de marque, c'est le corps, l'enveloppe, l'emballage, tout ça, c'est paraître. Et nous insistons souvent beaucoup, beaucoup sur ce côté-là, parce que nous désirons montrer ce que nous ne sommes pas toujours en réalité, individuellement, mais des fois aussi, sur le plan de la communauté, montrer, paraître. Mais qui trompons-nous? Certainement pas Dieu, parce qu'il connaît tout parfaitement. Paraître, tandis que être, c'est l'esprit, c'est l'âme. C'est, je dirais, le contenu plutôt que le contenant. Et c'est tellement important de souligner cela. C'est l'habitant plutôt que l'habitat. Il y a quand même une différence. Et c'est le message plus que le style. C'est-à-dire que c'est ce qui est profond dans l'Écriture, ce que l'Esprit de Dieu seul peut nous révéler et qu'il tire pour nous de la parole de Dieu quand sincèrement nous méditons. Nous sommes parvenu à une époque où ça devient de plus en plus difficile pour les êtres humains de passer du temps dans la méditation. Tout nous est fourni comme cela et on se laisse tellement facilement entraîner par tout ce qui nous est donné comme cela. Alors que dans la Bible, eh bien, nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu à fouiller, à chercher, cherchez et vous trouverez. Et c'est une chose importante. Frappez et l'on vous ouvrira. Écoutez, mes frères et sœurs, juste avant de terminer mon message, j'aimerais simplement vous dire, réfléchissons ensemble. Réfléchissez. Que pense votre entourage de votre religion? Que pensent ceux qui vous côtoient de votre piété? Quels sont les fruits qui sont évidents? Peut-être te contentes-tu, mon frère et ma sœur, d'avoir ici une apparence. Mais quel est le fruit? Que se passe-t-il dans le cadre de ta famille? Que se passe-t-il là, à l'intérieur de toi-même, que les autres ne savent pas, mais que Dieu connaît? Je ne suis pas en train de condamner. Je ne suis même pas en train de juger. Parce que si je vous parle de cette manière-là, c'est qu'avant déjà, le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur m'a dit, regarde, regarde ce qu'il y a là. Mais quand on le laisse agir, il dit, et ça c'est une chose formidable, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Si nous remplissons les conditions, lui, il va accomplir ses promesses. Si nous nous vidons, lui, il va nous remplir. Mais il faut être vrai. J'en ai fini. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.